Mais le masque comme ça.
Tu mets
un masque en haut et un masque en bas.
Mais non, mais et la, l'air, il passe pas dans la bouche.
Mais c'est pour manger.
Pas sous la bouche.
C'est pour manger.
Non, n'importe quoi.
C'est cinéma, hein.
Bon, c'est pour éviter. Ce, bon,
c'est
bon,
ce qu'il faut éviter, même à cette heure-là, oui, c'est d'être emmerdant. Voilà, c'est ce
faut... Le plus, c'est l'avion. C'est très dangereux.
Chacun, il faut.
Mais non, par exemple, l'avion, c'est le moins dangereux.
Et le monde,
c'est vrai.
Le monde, il marche bien. Il y en a qui mettent
le masque. Le renouvellement de l'air.
Je vais à un autre cours. Il y a un type qui est tellement emmerdant. Chaque fois, il sort ce problème-là parce qu'il y en a qui sont.
Et on voit sans le masque.
Mais il est plus emmerdant que ceux qui. Il faut rien dire.
Je crois deux fois par minute.
Moi, je connais, je suis emmerdant.
Chacun. C'est le peu de liberté qui nous reste. C'est haut.
Nous, nous.
Alors on reste là. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. On est à la maison.
Moi, je ne vois pas comment on pourrait manger, même avec le masque.
Non, arrête.
Oui, ça.
Il y a un type qui a été Paul Bekeller.
Pour le masque, c'est ce qui s'est passé à l'Ulpan. On était en Zoom. Chez nous, on n'avait pas de masque. Quand on a repris en présentiel, la réponse, enlève ton masque pour que tu te reconnaisses. Tu ne te reconnais pas.
Mais c'est ça. Non, mal à la saute. Mal à la saute. Ok. Eh bien alors allons-y. Je propose, sans plus attendre. Attends, juste je fais un calcul dans ma tête.
C'est-à-dire que si tu dis aujourd'hui qu'on est beaucoup plus raham que nos ancêtres,
oui,
ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment, comment dire, autant nos ancêtres, ils n'avaient pas de perspective, parce qu'il n'y avait pas d'État d'Israël, il y avait des exactions matin, midi et soir, ils ne voyaient que la mort en face d'eux, donc ils n'avaient aucune perspective. Aujourd'hui, grâce à Israël, grâce au fait qu'on étudie, donc il y a une assurance vie, quoi, pour la suite.
Bah, d'abord, tu as raison, et pendant toutes les générations où on n'avait pas Israël, on avait le rêve d'Israël.
C'est vrai, c'est important.
C'est ça qui nous a maintenus.
Ouais. On était plus racham. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait beaucoup plus, avant, des gens en petite quantité, beaucoup plus racham. Maintenant, il y a des gens en plus grande quantité, mais moins racham.
Mais non, encore une fois, non, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'est vrai qu'à l'époque, on avait des individualités extraordinaires.
Voilà, c'est ça.
Qui regroupaient tout en eux. Ceci étant, aujourd'hui, donc, on a beaucoup plus de gens qui connaissent beaucoup plus. Mais au-delà de ça, il faut arrêter avec notre complexe d'infériorité. Faut pas être orgueilleux. Faut pas penser je suis le meilleur, j'ai le truc. Bien sûr que non. D'abord, tu vois bien qu'est-ce que Rashi connaissait dans la Torah et qu'est-ce que toi tu connais dans la Torah.
Donc,
bien sûr. Mais, ça veut pas dire qu'on est moins chachamim. Parce qu'il y a plein de choses que toi tu connais que Rashi connaissait pas. Pas dans la Torah, mais dans plein d'autres sujets.
Ah oui, d'accord, parce que le monde, il y a été.
Il n'a rien fait mal. Et tu crois quoi? Tu crois que cette évolution du monde, elle n'est pas là pour nous aider à mieux comprendre Dieu?
Oui,
donc ça veut dire que on est individuellement peut-être au niveau de notre QI moins évolué que Rashi, mais ça veut pas dire qu'on est moins chachamim. C'est-à-dire, la question c'est est-ce que je dirige toutes mes connaissances vers Kadosh Baruch Hu ou pas?
Ah voilà, c'est ça.
Ah bah, d'accord, mais ça c'est pas un problème de chorma, c'est un problème de est-ce que je suis influencé toute la journée par des choses négatives ou alors est-ce que je réussis à me connecter à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le grand travail.
Et on n'est pas influencé par les mêmes choses.
Ah, c'est marrant. Tu sais, quand tu vois des gens, il y a 200, 300 ans, machin, à 30 ans, ils connaissaient tout le Talmud et ils avaient étudié. Mais ils n'avaient rien d'autre à faire. Il n'y avait pas de distraction à l'époque comme on a aujourd'hui.
Il n'y avait pas d'iPhone.
C'est comme les Russes, qui sont très, très, très forts point de vue musique et sport, parce qu'il n'y avait que musique et sport.
C'est ça. Exactement. Rien à mettre. Alors les amis, on arrive dans notre paracha de Bo, la paracha de la pré-sortie d'Égypte. Puisqu'on va sortir d'Égypte dans la paracha de Béchalach, mais dans la paracha de Bo, c'est la pré-sortie. C'est-à-dire que on n'est plus esclave. Les 10 plaies sont terminées, c'est-à-dire que c'est, ça se termine au début de la paracha de Bo. Et nous sommes donc dans les préparatifs de la sortie. Bon, tout ça se fait très très vite, parce que entre la dernière plaie et la sortie, il se passe une nuit. Mais nous sommes donc dans les préparatifs de la sortie d'Égypte. Juste avant la dernière plaie de Makat Bechorot. Ok ?
Et c'est dans cette période que les cinquièmes de Juifs sont restés en Égypte. Enfin,
oui.
C'est là qu'ils ont appris à être avec les.
Bah, ils avaient appris déjà avant. Non, déjà avant. Ouais, ceux qui
se mélangeaient pas, mais ils étaient esclaves, ils ne se mélangeaient pas aux Égyptiens.
Alors, il y a plusieurs choses à se rappeler. D'abord, ça fait depuis le début des plaies qu'il n'y a plus d'esclavage. Ouais. Donc on peut recommencer les contacts avec les Égyptiens. Deuxièmement,
question Sylvia, il s'est passé combien de temps entre la première plaie et la dixième plaie?
Comme d'habitude, ma réponse sera
un certain temps.
Marloquette.
Ah, d'accord.
C'est une marloquette, Bémet, entre le Ramban, entre le Sforno. Ouais. Est-ce qu'il s'est passé 6 mois ou est-ce qu'il s'est passé 1 an et demi?
Ah, d'accord, donc c'est entre 6 mois et 1 an et demi.
Machoukazé.
C'est suffisant.
Non, on va dire un an, un peu plus.
C'est suffisant pour s'intégrer à la.
Alors, c'est ça le truc. Est-ce que c'est suffisant pour s'intégrer? La question était de savoir combien de temps il y a eu la désintégration. Parce que, comprenons bien une chose. Nous, on a l'impression qu'on était esclaves de 110 ans en Égypte. C'est complètement faux. On était en Égypte de 110 ans. Mmh. Mais on n'était pas du tout esclaves de 110 ans en Égypte. Quand on y regarde de plus près, eh bien, jusqu'à la mort de Lévi, le dernier des frères, il n'y avait aucun problème. Et ça a duré 130 ans. Donc pendant les 130 premières années en Égypte, on était complètement intégrés, et je dirais même plus.
Assimilés.
Alors, on était assimilés, intégrés, assimilés, on était zémourisés. Aval, on était au poste clé. On avait des contacts avec le tout Égypte.
C'est ça.
Ok ? Après, ça va aller en descendant. Ça va aller en descendant parce que. Voilà, comme Melech Hadash al Mitzrayim, Asher Loyada et Yosef. Et donc, petit à petit, les Juifs vont commencer à être un petit peu moins.
Libres.
Moins libres, mais pas esclaves encore. Mais...
En combien de temps ? On était à 80.
Donc, il reste 80 ans.
80 ans.
Petit à petit, on perd un peu plus de liberté. Alors au début, j'imagine que ça s'est fait simplement par des campagnes un peu nationalistes. Il y a un parti qui est monté au pouvoir, qui commençait un petit peu à vouloir retrouver l'anticommunitarisme et de dire mais non, il faut autre truc, machin. Il y a peut-être même eu un juif qui a essayé d'être un juif qui voulait être égyptien. Il a dit moi je suis un égyptien de confession israélite. Moi je ne suis pas. Non, je ne suis pas sioniste.
Votez pour moi.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et donc ils ont certainement essayé, et ça a marché, parce qu'il y a plein de gens qui se revendiquaient de cela. Et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, hé, hey, il n'empêche qu'il est quand même sacrément juif, le mec qui dit qu'il faut s'assimiler. On va quand même pas mettre un juif à notre tête. Bon, il se trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à comprendre ça. Mais bon, chéyez, la brioute. C'est-à-dire, plus dur sera la chute. Quoi qu'il en soit, au final, petit à petit, on commence à les sortir. Combien de temps va durer l'esclavage tel qu'on voit dans le film ?
50 ans.
Alors justement, de 80 ans jusqu'à zéro, ça descend. Mais l'esclavage dur et pur et dur, le midrash qui te dit qu'on mettait les bébés juifs dans les briques et tout ça, machin, ça c'est un an. C'est la dernière année.
On fait ça et tout pour un an.
Alors non, j'ai pas dit que l'esclavage a duré qu'un an, mais j'ai dit que l'esclavage dur de ça a duré un an. Mais il y a eu une dégénérescence progressive, d'accord. Mais ça veut dire que, disons que sur les 20 dernières années, la vie était compliquée vraiment pour les Juifs. Mais 20 ans, c'est pas non plus 3 siècles. Donc une fois que ça y est, on arrête. Bah, l'intégration, elle redevient comme j'étais il y a 20 ans. On redevient copains et j'avais des connaissances encore. Et puis n'oublie pas qu'il y avait au sein des Bnei Israël, même à l'époque de l'esclavage, dur et dur, il y en avait quand même qui étaient des privilégiés.
Sûrement.
Pas sûrement.
Non, c'est Lévi.
Pas que Lévi.
C'est Sylvain.
Pas que Lévi.
Non,
pas que Lévi. Il y avait des esclavagistes juifs en Égypte.
Des capots.
C'était pas que des capots, t'as raison. Il y avait des capots, mais il y avait aussi des gens qui étaient encore plus.
Plus pourris que les Égyptiens encore.
C'était les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. Les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi étaient ceux qui participaient à l'esclavage en tant que maîtres et pas en tant qu'esclaves. Eh oui. C'est eux dont le Meshech Chochma nous dit, quand le Dieu dit à Moshe qu'il faut aller libérer les Bnei Israël, il dit « Vayetzavem el paro melech mitzraim vel Bnei Israël leotzi et Bnei Israël meret mitzraim. » Pourquoi est-ce qu'il faut ordonner à Pharaon et aux Bnei Israël de libérer les Juifs? Parce qu'il y avait parmi les Bnei Israël des gens qui avaient des esclaves hébreux.
Ça avait des esclaves juifs.
C'est ça? Donc, autant te dire que le retour aux affaires s'est fait beaucoup plus vite que la descente aux enfers.
C'est
Alors là, t'as vu?
Mais ouais, attends, il n'a pas
je sais pas ce qui s'est passé ce matin, c'est le gâteau. C'est le gâteau. C'est le gâteau. Qu'est-ce que c'est? Alors attends.
Voilà.
Ah, on te laisse boire un peu.
Tiens. Mais c'est...
Attends, je vais avoir une nouvelle.
Un nouveau truc. Ma question n'est pas d'actualité, quoi. Elle est d'aujourd'hui, et donc je ne mets pas la place des Israël. Mais quand ils ont. Quand les Makot sont apparus, ils se retrouvent à Beit Geshen, avec leurs troupeaux, avec leur habitude antérieure, ils vivaient très bien.
Ah bah tout à fait.
Alors, ils vivaient très bien, de mieux en mieux. Je vis d'autant mieux qu'en face, les Misraïm, les Égyptiens, ils subissent...
Ah bah complètement. Alors je t'inquiète pas, il y avait certainement au sein des Béné Israël, tu sais qu'en Égypte, voilà, on n'a pas changé nos noms, on a gardé nos noms.
Oui.
Mais il y avait certainement des gens qui étaient quand même sympathisants.
Oui.
Et au sein des Bnei Israël, il y avait des gens qui étaient humanistes comme ça, des Bernard-Henri Lévis, et autres numéro bis, et à mon beau-fils, et tous les fils. C'est père et fils. Il y en avait des gens qui disaient non, mais l'humanisme, il faut être ensemble, fédérer, machin. Mais la majorité des Juifs, à Goshen, ils étaient très contents de voir les Égyptiens qui les frappaient hier se faire frapper aujourd'hui. Faut pas croire, maintenant.
Et attends, je termine. C'est-à-dire que finalement, cette situation est de plus en plus intéressante pour eux. Ils vivent de mieux en mieux. C'est la Suisse du Moyen-Orient. Ils sont très bien. Et là, brutalement, on leur dit, allez, il faut partir. Partir, on est bien là. Ouais, puisqu'on a vaincu les Égyptiens. Pourquoi partir?
Mais tu as tout à fait raison, mon ami. Et il faut que tu saches que ça, c'est un aspect archétype. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici dans la libération d'Israël de l'Égypte, c'est Maase Avot Siman Abanim. Le but, c'est que on apprenne de cela, parce que c'est un moule qui revient à chaque fois qu'on doit sortir d'exil.
Ouais.
Parce que tu comprends que si l'exil, même à la fin de l'exil, est terrible, forcément les Juifs ils veulent partir.
Ouais, mais là, c'est pas le cas.
Mais on veut pas que les Juifs ils veuillent s'enfuir. On veut que les Juifs ils veuillent partir de leur plein gré. Donc pour que les Juifs décident de partir de leur plein gré de l'exil, il faut que l'exil ne soit plus un enfer. Il faut que l'exil redevienne un endroit très bien et qu'on décide de partir.
Ne pas partir.
Qu'est-ce qui est mieux? De fuir la France? Ouais, parce qu'il y a eu Mohamed Merah, ou alors parce que je fais mon alia, parce que Akadosh Baruch Hu il m'a appelé.
C'est le même problème.
Exactement.
Qu'est-ce qui est mieux?
C'est le
problème,
c'est
qu'ils n'ont
pas reçu la Torah tout de suite.
Je ne parle pas de la Torah.
Oui, mais c'est
non.
On parle de Torah tout à l'heure. On était dans le matériel.
Ils n'ont pas reçu la Torah, mais ils ont la promesse de Dieu à Abraham.
Ouais, mais
sinon,
c'est
d'avenir en Israël.
La Torah, elle est orale pour l'instant.
Ouais.
Ben oui, monsieur.
En tout cas, rien n'est dit dans la Torah.
Mais si, la preuve, c'est qu'ils crient vers Dieu. Donc ils savent qu'il y a une adresse vers qui il faut le bureau des plaintes.
Ils savent leur histoire. Hein.
Ouais. Bien sûr qu'ils connaissent leur histoire. À Bataille, à chaque fois que Dieu veut nous sortir d'exil, il fait en sorte que juste avant la fin de l'exil, l'exil cesse de devenir un enfer. Pourquoi? Pour qu'on décide volontairement de partir.
Ou un paradis. Non. Un paradis. Il y a des endroits sur Terre où l'exil a été un paradis, mais les gens n'ont pas voulu bouger.
C'est ça que je te dis. Voilà. Non. De manière générale, l'exil, c'était pourri pour nous. On a souffert en exil.
On a souffert.
Mais
avec le temps,
au moment où l'exil doit prendre fin, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que l'exil cesse d'être insupportable. Ouais, et au contraire, ça redevient un kiff. Mais aujourd'hui, on en est là. Les amis, pourquoi les jeunes ne veulent pas repartir de France, ils ne veulent pas partir des États-Unis? Parce qu'on est bien.
Maintenant,
à l'époque de l'affaire Dreyfus, s'il y avait eu Israël, il y en aurait eu plein des aliotes. Mais c'est trop facile de partir de France quand tout va mal là-bas. Il faut partir quand tout va bien, parce que c'est un choix. Ça a l'air.
Ouais, d'accord.
Donc.
C'est exactement ce qu'on a expliqué, parce qu'en même temps, il y a des Russes. Et on a essayé d'expliquer, c'est pas pareil. Nous, on n'a pas été forcés de partir. On n'a pas attendu que l'officier existe.
C'est clair,
pour sortir. Donc, quand on est sorti de France, on est sorti avec date, avec.
Je vais donner un exemple différent qui nous touche. Le mec qui a fait son alia il y a 20 ans,
bon,
ne ressemble,
20 ans pile.
Ne ressemble pas à celui qui a fait son alia dans les 5 dernières années.
Ah, c'est sûr. Là, c'est évident.
Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Un, il est venu tout seul. Il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de communauté francophone. Il y avait un mec qui a décidé que Akadosh Baruch Hu, il m'avait rappelé et il fallait rentrer. C'est un idéaliste, le mec. Et en général, c'est des gens qui ne fuyaient rien du tout, qui avaient une bonne situation, mais qui voulaient partir.
Et on leur demandait, mais pourquoi tu pars ?
Exactement. Ouais, les gens disaient, mais t'es un fou.
Exactement.
Aujourd'hui, il y a des fois des gens qui ont encore cette fibre-là, mais très souvent, c'est parce que, même si eux n'ont pas été victimes, tellement d'antisémitisme et tout ça, machin, c'est plus le moment de rester en France. D'ailleurs,
ouais.
Donc, El Malasot, à la fin de l'exil de l'Égypte, c'était redevenu un kiff.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, ça, comme tu disais, il y a 20 ans, on est parti de notre plein gré et aujourd'hui, il fuit. Mais en très peu de temps, par rapport à la vie d'un homme, quoi. Bah, en 10 ans, 20 ans maximum, quoi.
Ah, oui.
C'est fou. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer ce que seront les Juifs de France.
Dans 10 ans,
bien sûr. 5 ans ou dans 10 ans.
Bien sûr, mais c'est. Enfin, le problème, c'est quoi ? C'est que on peut un peu imaginer. Et c'est pas joli, joli.
Bien sûr.
Parce que moi, j'ai vu ce qui s'est passé avec les Juifs qui ont raté le train de la sortie d'Égypte. Il y en a qui sont restés en Égypte, on a dit.
Ouais.
Et qu'est-ce qui leur est arrivé ?
Ils sont perdus.
Ouais,
c'est fini.
Ils se sont perdus. Et j'ai pas envie que ça arrive à mes frères de France ou des États-Unis. Et on en prend le chemin.
Totalement.
Il y a un moment utilisé avant de France. Quand je veux, je ne fais pas m'en aller, mais quand je veux, je prends un billet d'avion, je viens. Quand je veux venir, non, tu ne viens pas.
C'est facile.
Moi, je veux simplement te donner un exemple. Le mien.
Oh !
Moi, je suis l'aîné de 9 enfants. 9. Une famille nombreuse. Je suis le seul qui a été marié à une juive. Mes frères et mes soeurs en France sont tous avec des catholiques.
C'est faux ce que tu as dit.
T'imagines.
C'est faux. Regarde, ça fait un dixième qui a été sauvé.
Exactement.
Le reste, il est perdu.
C'est
mais les enfants, ils ne mettent pas
ça,
de parler de
tout
ça. Ils ne savent même pas ce que c'est. C'est perdu. Et comme moi, il y en a beaucoup dans les familles nombreuses.
C'est une génération, c'est terrible.
Alors ça, j'imagine que ce qui s'est passé en Égypte, dans ce même truc, il y a eu certainement des Égyptiens qui étaient intégrés, qui étaient bien, qui ne voulaient pas partir. Parce que les pantoufles étaient chaudes, etc. Et puis voilà, ils ont été perdus dans l'humanité, gamin, on n'en parle plus. Voilà.
Mais tu veux que je te dise ? Moi, je vais dire la vérité.
Catastrophe.
À Rosh Hashanah, à Pessah, on mange la matzah et on mange le maror. Et vous vous rappelez bien que la matzah, on nous dit tout le temps qu'elle est là pour nous rappeler quoi ? Qu'elle est là pour nous rappeler
la
liberté, le pain de liberté, tout ça, machin. Et le maror, c'est pour nous rappeler l'amertume. L'amertume de quoi ? Viens, on se place du point de vue du premier Pessah qu'ils ont fait, plus en Égypte. C'est-à-dire pas le Seder de Laz sorti d'Égypte, l'année d'après. Mais au soir du Seder, vous croyez que c'était la fête ? Vous croyez qu'ils étaient heureux ? Moi, je vais te dire, j'y étais pas, hein, mais j'y étais. Ils étaient en larmes.
Ils ont quitté une partie de l'heure.
Mais dans toutes les familles, il y a des gens qui sont restés là-bas.
Évidemment.
Dans toutes les familles, il y a des gens qui n'étaient pas venus avec nous. Non. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens, ils étaient à Maror? L'amertume, c'est pas seulement l'amertume des coups de fouet. C'est l'amertume d'avoir laissé là-bas. Ils ne voulaient pas venir, on ne pouvait pas les prendre de force. Mais...
Le résultat de la course, encore, ils ont été perdus. Pour toujours, parce qu'on
ne parle plus. Donc, tu me dis, on ne peut pas savoir ce qui va arriver.
Je ne sais même pas si dans la civilisation égyptienne, je ne sais même pas si dans la civilisation égyptienne, on parle de ces gens qui sont restés. On doit certainement parler de la sortie d'Égypte, peut-être.
Très très peu. Très peu, mais ça c'est normal, parce que dans l'Égypte, si tu veux, à chaque fois qu'il y a un nouveau roi, une nouvelle dynastie, il faisait effacer des murs, des machins, tout ce qu'il y avait avant. Donc il y a très peu de choses.
Juste un petit point d'espoir.
Tu dis, c'est pas tout le monde. C'est pas pour toujours. Peut-être qu'ils vont revenir.
Non. Il y a une qui raconte, certains ils sont appelés par leur prénom français, je dis qu'il n'y a pas un prénom en hébreu, nanana. Il lui dit, moi je m'appelle, une, elle vient d'Italie, je m'appelle Myriam, j'ai choisi mon nom. Donc elle nous a dit qu'elle était convertie. En fait, ils sont aperçus, son fils s'est aperçu il y a 20 ans que son grand-père paternel était juif. Il dit, je veux devenir juif. Donc lui, il revient. Et après, elle a mis 20 ans pour se convertir. Donc il y a
un espoir. C'est Nakhon. Mais bon.
Mais c'est un sur combien de cas.
C'est ça.
L'infime minorité.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, de notre point de vue...
C'est pourquoi, donc, aujourd'hui, les juifs, ils sont plus nombreux. Je parle juste francophone. Que je connais, viennent, sont plus nombreux à venir depuis 5 ans, par là, 5-10 ans, à venir en Israël. Je sais pourquoi. C'est sûr, c'est pas l'attrait. Je sais pas. Il y a une sorte de. Bon, c'est vrai, il y a une sorte d'attrait spirituel. Évidemment. Mais je pense qu'avant tout, c'est l'attrait matériel. Moi, à l'époque, je suis un petit peu âgé, donc j'ai connu des pensées vis-à-vis d'Israël. Israël, c'est un pays pauvre. En les années 50, c'était l'horreur.
Oui, on que de leur amener de l'électroménager.
Moi, il y a 10 ans, quand je commence à bouger ici, j'étais le roi du monde avec mon euro. J'étais le roi du monde, je dis. Après tout, grâce à moi, je fais vivre Israël. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est Israël qui permet donc à des communautés de survivre. Et donc, je pense que... Je pense, il me semble que ça va faire changer les mentalités des francophones, des Français qui restent là-bas. Après tout, Israël, maintenant c'est un pays, c'est le Pérou, c'est le pays où il y a le plus la possibilité de vivre bien, de matériel, etc. Ça va, je veux dire,
tu as raison, 100%. Tu as raison, 100%.
Shamir, quand il était au gouvernement,
il faut prendre ce qu'il y a.
Shamir, quand il était au gouvernement, il a dit. Israël ne vit plus maintenant avec les sédacotes, les petites boîtes, etc. Et c'est fini.
Je vais te raconter.
On a dénaturé la vision d'Israël.
On a quoi? On a dénaturé?
Oui, parce que je veux dire que quand tu dis qu'on met des petites pièces pour Israël, et je mettais des pièces jaunes.
Je vais te raconter une histoire.
Mais je pense que tu as connu ça comme moi.
J'ai moins de recul que toi, mais effectivement, moi, à mon niveau, je me souviens, j'ai fait l'Alia en 2003.
Tu étais tout seul.
Alors d'abord, je suis venu tout seul, évidemment, mais je me souviens très bien de... Enfin, plus que d'ailleurs que d'autres choses, ça m'avait marqué. Je me souviens de Rehov Yafo. Tu connais Rehov Yafo? Les tramways, tous les magasins... grande artère de la ville. Mais Rehov Yafo en 2003, c'était les bidonvilles des bidonvilles. C'était moche, c'était vieux, pauvre.
Bien sûr.
Tu avais l'impression que tu étais dans un pays du tiers-monde. Rehov Yafo.
Exactement.
Et ça fait même pas 20 ans.
Tu
vois ? Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a...
Maintenant, c'est tout beau.
Il y a deux ans, très exactement, si je ne m'abuse. Ouais.
C'est plus attirant.
C'était quand Parashat Lech Lecha, c'était au mois de novembre.
C'est novembre-décembre.
Novembre, c'est ça. Donc il y a deux ans, jour pour jour, enfin un peu plus quoi, novembre 2019, Erev à Corona. la veille du corona.
Ouais.
Dans l'ancien monde.
On se moquait des...
Hein, dans l'ancien monde. Non, il n'y avait pas encore, on savait pas. Non, c'était c'était même pas encore à Wuhan.
C'était le 31 décembre.
Ouais. Non, mais
oui, c'est ça. Je te parle avant, avant, avant.
Ça avait commencé.
Non, non, ça n'avait même pas encore commencé.
Personne n'en parlait, ça.
Non, non, mais ça n'avait pas commencé. Ça avait pas commencé. Il y a bien eu un moment où ça n'avait pas commencé encore.
C'était le 31 décembre.
Nous, alors tu vois, alors, Kitsour, avant, on est parti avec le Rav Avraham Derry, ou Dré, et on a accompagné, donc moi j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe, il y avait le Rav Avraham Derry, il y avait moi, on a accompagné le Rav Shmuel Eliyahu en France. Tournée, machin, donc le Rav Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Tzfat et fils du Rav Mordechai Eliyahu. Bon. Donc on arrive en France. Oh, alors, chacun il avait un circuit à faire, moi j'étais dans des communautés, dans des écoles, machin. Mais il y a des moments où on était ensemble, on accompagnait le Rav Eliyahu. Et on arrive à. Je crois que c'était une bar mitzvah, je crois que c'était à Neuilly. Autant te dire que.
On se sent dépaysé.
Les gens n'avaient pas de problème matériel. Et le Rav, il fait un cours extraordinaire et tout. Et à la fin, réception.
C'est bien ce que vous faites.
Alors, non, attends. Il parle avec une des personnes qui, manifestement, a des moyens. Et il dit ah, putain, Rabin, on traduit, tu vois, parce que le Rav, il parle pas français. Il dit ah, monsieur Rabin, c'était fantastique, machin, hein. Et là, il fait ça. Il a une veste, il est en costume. Hein. Il fait monsieur le Rabin, et il sort son chéquier. Et je voudrais vous faire un don. Et alors, on traduit au Rav. Et il dit et le Rav, il dit mais qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais vous faire un don pour la Torah, les institutions, vous avez certainement des gens qui ont besoin, machin. Et le Rav, il lui prend la main et il lui remet la main dans la veste, il lui dit t'as pas compris, t'as pas compris. Je suis pas venu demander d'argent. Ah mais les rabbins qui viennent d'Israël, ils demandent de l'argent. Il dit non, t'as pas compris. En Israël, on a la bracha. On manque de rien. On n'a pas besoin de ton argent. Par contre, et là le Rav il sort son chéquier, il dit par contre si tu veux que je te fasse un don, je peux te faire un don. Mais on vient pas être montré que Israël c'est Misken. Israël c'est Hashefa, Israël c'est Abracha, Israël c'est la résurrection.
C'est fini le temps de...
Eh oui, fini.
Mais je pense qu'il y a un changement de mentalité vis-à-vis d'Israël.
Mais c'est sûr. Non mais de toute façon, c'est une évidence qu'aujourd'hui Israël c'est un pays qui économiquement est au top.
C'est sûr. Mon frère toute cette semaine, il me parle de ça. Hein.
Mais maintenant le problème du mec qui vient de France, c'est que c'est trop fort Israël. Ouais, c'est pour ça qu'il veut plus venir. Il dit mon euro, il ne vaut plus rien. Qu'est-ce que je passe?
Tu veux que je te dise, moi il y a 40 ans que je suis venu. Je ne peux pas dire.
Tu rigoles? Attends, excuse-moi, vraiment. Mais hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'on a le droit d'investir un bien immobilier en France? Sur un bien, est-ce qu'on a le droit d'acheter un bien immobilier en France? Il m'a dit, mais parce que c'est inachetable. Tu me prends 300 000 shekels. 300 000 shekels, allez, 350 000 shekels, 100 000 euros. C'est inachetable en Israël, tu peux rien acheter en Israël, mais tu peux trouver en France des trucs sympas,
c'est
fou, hein. Et après tu le loues et ça te fait une rentrée d'argent.
Mais honnêtement, je me suis posé.
La réponse est non.
Bah, juste, c'est oui.
On plante pas.
À l'époque où je suis venu en 80.
Tu plantes pas, tu vas pas t'installer. Mais c'est comme quand tu fais une société, tu fais du business, machin, c'est pour avoir de l'argent. C'est moutard.
En 82-83, il y avait une inflation ici. 400%.
Bien sûr, mais on sait.
La boîte de sardines, le matin, elle avait un prix, le soir, c'était un autre prix. Ils pensaient même payer les gens à la journée ici. Parce que au bout du mois, l'argent ne valait plus rien.
Bien sûr.
C'est une période catastrophique.
Ah, tu connais ça.
Il est venu une année. Parce que les années, elles sont passées, on a passé. Et puis petit à petit, avec les gouvernements qui ont changé, etc.
Le nouveau shekel.
Le nouveau shekel, etc. Ils ont fait un nouveau shekel, pourquoi? Parce que l'autre, s'est éclaté. Il est venu Netanyahou et petit à petit, il a redressé la situation qu'on est maintenant. Quand maintenant on dit que le shekel, il est plus fort que toutes les monnaies, c'est grâce à lui. Il a géré ça d'une manière extraordinaire.
En bataille, c'est Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser sa promesse. Et il y a des gens qui ont encore des œillères sur les yeux pour ne pas le voir.
Je vous dis une chose encore. Hier soir, j'écoutais...
Tu veux pas te l'aider encore?
Oui, une seconde. Non, j'écoutais les infos sur I24, parce que malheureusement, on ne parle pas l'hébreu. donc sur I24. Et
comment ça, on ne parle pas l'hébreu? Toi, tu parles pas l'hébreu.
Trois mots, quoi. Et le directeur du tourisme israélien était invité. Et il disait, attention, si vraiment, comme prévu, quoi, Israël ouvre dans 8 jours, là, le monde entier va vouloir venir en Israël. Les goy, je parle des goy, pas que des juifs. C'est-à-dire que tous ces goy de France et d'ailleurs, qui ne s'imaginaient pas du tout venir un jour en Israël pour 8 jours, quoi, pour visiter, avec tout ce que fait Israël depuis 2 ans avec
mais
le Covid
sûr,
et avec tout
sûr.
Le reste.
Mais bien sûr,
etc. Ils sont en train de bouillir. Mes patients qui me téléphonent encore depuis 12 ans, tu vois. Je suis en contact avec eux. Ah, ouais. Et qui me disent, mais quand est-ce qu'on va pouvoir venir à Jérusalem? Alors que jamais ils ont imaginé venir en Israël, quoi. C'est ça que ça veut dire.
Israël, c'est le sujet du monde.
Est-ce que vous vous rendez compte que c'est nous que Akadosh Baruch Hu a choisi pour être les ambassadeurs de cette génération. Donc il faut relever le défi. On ne peut pas se cacher derrière notre nombril. C'est-à-dire, c'est plus possible. On vit un moment extraordinaire. Donc il faut relever le défi. Alors, relevons le défi.
On n'a pas commencé.
C'est ça.
C'est une petite question charnière.
Est-ce qu'on peut étudier la Torah?
On n'a pas commencé encore.
Ah, est-ce que maintenant on peut étudier? C'est bon?
On a beaucoup de problèmes.
Attendez, il reste un quart d'heure.
Alors, allons-y. Alors, les amis, je vous invite à prendre la page 51.
Vous tournez les pages, là.
C'est comme si c'était fait.
Alors allons-y. Comment se détache-t-on? Parce qu'on l'a dit, c'est les préparatifs de la sortie d'Égypte. Et il faut se détacher de l'Égypte pour pouvoir s'attacher à Israël. Comment on fait pour se détacher? Eh bien, il y a 3 étapes pour se détacher de l'Égypte. Mais vous avez compris que ce n'est pas que de l'Égypte. Il y a 3 étapes pour se détacher de l'exil, pour pouvoir retrouver notre identité. Première étape. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim lemor chodesh azel lachem rosh chodashim rishon ulachem lechodshe hashana. Voilà les amis. Alors je vais passer un coup de gueule. Oui les amis, je vais le dire. Ça va m'attirer les foudres d'Internet. Mais je vais le dire quand même. Je suis passé devant une boutique de pâtisserie, très bonne au demeurant. Je ne vais pas dire le nom. Pour ne pas faire de la publicité. Française.
Sur
petit à petit,
je ne vais pas faire de publicité. Messieurs, dames, vous ne m'aurez pas.
Tunisien, non?
Je sais que c'est une pâtisserie qui fait du très bon travail, des gâteaux que j'ai moi-même pratiqués souvent, qui d'ailleurs est située dans une rue dans laquelle a eu lieu un des événements du Tanakh impliquant le roi David. La vallée de Réphaïm, comme dit-on. Mais en tout cas, je ne sais pas de quoi tu parles.
Faut pas le craindre.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Et
c'est d'ailleurs là où je vais aller tout à l'heure.
Il y avait dans cette pâtisserie, peut-être qu'il y a encore aujourd'hui, parce que c'est encore l'époque, un gâteau avec un nom marqué en hébreu, mais difficile à déchiffrer. Les Israéliens se cassaient les dents car ils ne savaient pas ce que c'était.
L'inscription phonétique du français.
Et oui, et il fallait lire quelque chose qui ressemble à galette des rois. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, vous avez
trouvé la fève, hein? Sans la fève.
Je sais pas, t'as regardé?
J'ai mangé.
Attends, il n'y avait pas?
Aïe.
Moi je dis. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה אתה עכשיו עושה לי גלת דרוע, אנג'נבייה, פסקום ותירי לרוע? מה זה עכשיו? De la même façon, je l'ai déjà passé le coup de gueule, je trouve aberrant de faire des bûches de Noël cachères.
Ouais, ou les fausses crevettes.
Ou les fausses crevettes. Non, les fausses crevettes, c'est pas parce que. C'est contre la cacheroute en général.
Ouais.
C'est pas par rapport à la France en particulier. Mais
il ne faut pas se détacher complètement de tout.
De quoi ?
De ce qu'ils ont vécu en France.
Non, 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 t'as pas compris. T'as pas compris. T'as pas compris. Deux secondes.
Pas lieu d'être.
Non, mais... viens, je vais te donner. Puisqu'on reste dans le gâteau. On reste dans le gâteau. Ok, on est dans le gâteau. On est dans le gâteau. On reste dans le gâteau. D'après la Kabbalah, et vous le savez, je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit, la galoute, elle avait aussi un rôle. Le rôle, c'était les laquette nitzotzot akedusha shebetor haklipa. Il faut récupérer des étincelles de sainteté qui étaient perdues là-bas. Je prends l'exemple.
Mais pas toutes les étincelles.
Attends. Il faut prendre tout ce qui est de sainteté. Je vais prendre l'exemple du gâteau. La pâtisserie à la française, ze nitzot sel kedusha. C'est une étincelle de sainteté. Parce que
c'est fin,
parce que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps, c'est allégé, c'est beau, c'est truc, machin. Ok. Mais c'est chez. Donc, toi, tu as été là-bas, tu as appris à faire ça. Tu as fait une grande école de cuisine, de pâtisserie, machin, tu as appris à faire ça. Tu as fait ton alia et tu as ouvert une pâtisserie à la française qui te fait des éclairs, qui te fait des trucs, machin, et extraordinaire, tu fais Gilou Hichem Hachem Baolam derrière la pâtisserie. Donc, c'est très bien, tu t'es pas détaché complètement de ce que tu as vécu en France. Seulement, tu l'as fait ici, en mode kasher, avec une Israelis touch. Machin, il a fait. Mais faire rentrer la bûche ou la galette des rois.
Ça, c'est
je t'ai pas dit de te détacher complètement de ce qui était bien en France et qu'il n'y a pas de raison de se détacher. Mais tu vas continuer à lire la littérature française et pourquoi pas, c'est très bien, continue, j'ai la brioute. Mais de là à maintenant me faire une bûche de Noël cachère, ouais. Mais t'as rien compris, mon ami.
C'est pareil, quand ils font les religieuses aussi, c'est pareil, les gâteaux religieux.
Noël. T'as rien compris. Maintenant, c'est bon, c'est pas la question.
C'est
la
bûche.
Non, mais on peut faire le même gâteau.
On a vendu des bûches de Noël.
Je sais pas si en Israël, mais j'ai vu des pubs sur Facebook en France, il y en avait plein.
Ouais,
oui.
C'est vrai.
Donc, Rabotai, de quoi on est en train de parler ? C'est-à-dire que. Oui, on doit se détacher. La première chose qu'on nous a dit, c'est de nous détacher du calendrier des Égyptiens. Parce que la façon dont on a de percevoir le temps, c'est ce qui détermine notre regard sur le monde. Et mal à saute. Et lorsque tu décides que maintenant, on sort d'Égypte, donc on change de calendrier, c'est-à-dire que notre histoire ne va pas aller au même rythme que leur histoire. C'est une décision extrêmement symbolique. Et moralement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous rappelle que les Égyptiens commençaient l'année en Tishré. Alors, ils n'appelaient pas ça Tishré parce que c'était un nom babylonien. Mais à cette époque-là. Et nous, on dit non, tu vas commencer en Nissan. Quelle est la différence ? Ben, en Tishré, c'est l'automne. C'est-à-dire, c'est là où tout est en train de mourir. Alors que Nissan, c'est le printemps, c'est là où tu es en train de revivre. Quel est ton regard sur le monde ? Est-ce que c'est un regard optimiste ou pessimiste ? Et donc, tu commences par ça. Quand aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un des jeunes qui est encore en France à l'école, qui m'a envoyé une vidéo, et j'ai vu les commentaires des gens. Mais c'est dingue comment les gens n'arrivent pas à réfléchir honnêtement. Il y a un chanteur très très connu en France qui s'appelle Maître Gims.
Aïe.
On m'a envoyé, il a fait une vidéo demandant à tous ses frères musulmans, il est musulman, d'arrêter de lui souhaiter la bonne année. Parce que c'est pas la nouvelle année. Parce que pour lui... Pour un musulman, c'est pas la nouvelle année. Donc il dit, arrêtez. Chez les musulmans, on ne se souhaite pas la nouvelle année. Donc s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages de bonne année.
Et c'est l'intégration chez vous.
Alors attends, deux secondes. Attends. Eric Zemmour et les autres, ils vont te dire, mais tout ton succès, c'est la France, machin. Et maintenant, tu viens dire ça, donc c'est pas, t'es pas intégré, t'es pas machin. Mais deux secondes. Mais au moins, il est super cohérent. Il est honnête, le bonhomme. Il dit, je suis musulman. On a un calendrier dans l'islam, eh ben mon calendrier, c'est pas le calendrier grégorien. Point. Mais il n'y a pas de problème, c'est pour ça que... Deux secondes. C'est pour ça que si une chrétienne lui dit bonne année, je pense qu'il s'en fiche. Mais ce qui le dérange, si j'ai bien compris, c'est qu'un musulman lui dise bonne année. Le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire que le 1er janvier, tu dois dire bonne année au goïm. C'est leur nouvelle année. Mais tu dis bonne année à un juif, t'as rien compris.
Un juif religieux, entre guillemets.
Non, pas religieux, un juif.
C'est des juifs qui sont français.
Si tu dis bonne année, t'as rien compris.
Tu ne dis pas un juif. Tu ne dis pas un juif. Toi, tu dis.
Il y a un homme que je connais qui est un élu de la République qui a marqué sur son compte Facebook bonne année à tout le monde et joyeuses fêtes de Noël pour tous les chrétiens et machin, et bonne année à tout le monde. J'ai envoyé un message. Il dit le double discours. Parce qu'il est religieux, juif. Il dit, ah, tu comprends, la République, obligé, machin. Ouais. Mais effectivement, l'idée, c'est de bien comprendre qui on est. Rappelons-nous deux secondes tout de même de l'Égypte. On nous a dit, on a gardé nos noms, notre langue et nos habits. Si tu perds ton nom, tu perds ta langue, tu perds tes habits, c'est quoi tes repères ?
C'est tout perdu.
Donc là, on te dit, ça ne suffit pas pour sortir d'exil, d'avoir gardé ton nom, d'avoir ta langue et d'avoir tes habits. Ça ne suffit pas de t'appeler Benamou et de parler du judéo-arabe vite fait et d'avoir la grosse, le gros chai. C'est pas ça qui te permet de sortir d'exil parce que des fois, t'as beau être ça, tu es ultra assimilé et tu n'arrives pas à te projeter à l'extérieur, tu es fan de la France. Prenons un exemple. En France aujourd'hui, alors, peut-être que je fais un procès d'intention, si c'est le cas, excuse-moi, je ne te connais pas personnellement, mais de ce que tu montres, voilà ce que j'en déduis, peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que l'une des personnalités juives les plus influentes en France aujourd'hui, c'est pas Éric Zemmour, c'est Cyril Hanouna.
T'as raison.
Et Cyril Hanouna, bah, il, à mon humble avis, il représente ça. Il représente ce « j'ai gardé mon nom », c'est Hanouna, c'est Baba, c'est trucs, ouais, machin. D'un autre côté, je revendique le Shabbat, machin, hein, et je suis très... je m'habille comme un juif de Paris, RCO, mais la France. Je reste en France, ma France, machin, la France. Je peux être aussi assimilé culturellement, même en ayant gardé ça. À l'inverse, quand tu vas à Anvers, ou quand tu vas à Borough Park, aux États-Unis, à New York, et tu vois des mecs qui sont habillés en chassidim avec des périodes jusque-là, qui parlent yiddish toute la journée, et qui s'appellent, je sais pas moi...
Yankel,
t'as gardé ton nom, t'as gardé ta langue, mais t'es un Américain jusqu'au bout des ongles.
Complètement.
Donc, les amis, la première chose à faire, c'est de se séparer au niveau de notre perception du temps. Non, c'est pas Happy New Year. Que les juifs, déjà, ils aient un bilboule entre le premier Nissan, qui est le vrai début de l'année, et le premier Tishrei. Bon, allez, je passe. Je passe, parce qu'on leur a vendu Rosh Hashanah, donc, etc. Et le 1er janvier, pas du tout. Non ! Première chose, changer le calendrier. Notre perception du temps va déterminer notre relation à Dieu.
Mais tu vas leur enlever le Papa Noël avec les souliers dans la cheminée.
Aux juifs ?
Eh oui, mais t'as entendu ça comme le Machia.
On a vu les photos du Père Noël en Israël. On a vu les photos du Père Noël au Kotel qui met les tefilines.
La première chose quand ils se lèvent le 25 décembre, la première chose qu'ils font, ils vont voir dans les souliers ce qu'on a.
La deuxième chose, Rabotaille, quelle est la deuxième chose ?
L'un va avec l'autre.
Quelle est la deuxième chose qu'on nous dit de faire ?
Tu dis le temps,
oui.
Mais il y a l'espace. Il y a, si tu as trois choses, on l'a toujours dit, le temps, l'espace et le matériel. Là, ils ont encore conservé le matériel. Ils ont encore. Au fond, ils sont dans un espace qui leur.
Si tu me permets, c'est ça. La deuxième chose qu'on nous dit, c'est quoi ? Korban Pessah. Et c'est quoi Korban Pessah ? Korban Pessah, c'est quand même très très chaud. Korban Pessah, c'est on traduit ça aujourd'hui, c'est on demande à chaque juif de prendre une crèche et de la détruire devant tout le monde.
Oui, c'est ça.
C'est ça que ça veut dire. Korban Pesach, c'est quoi? C'est Elohim Mitzrayim.
C'est un dieu.
Et tu, c'est un des dieux principaux de l'Égypte. Ouais. Et tu vas l'accrocher, tu vas le shriter. Ouais. C'est, imagine, tu demandes à tous les juifs maintenant de prendre une crèche. Et boum.
On nous a tués pour
caché. Ah, on nous a tués pour moins que ça. Ouais. Nachon. Alors viens, on traduit ça de manière conceptuelle aujourd'hui. On te demande de quoi? On te demande de te détacher pas seulement de leur perception du temps, mais de leur perception du divin.
Bien sûr,
ah, c'est malade. Ben oui, mais tu veux savoir combien d'influence chrétienne dans la vie religieuse juive en Houtzaret? Et même des fois en Israël?
Quand le grand rabbin de France dit que Notre-Dame brûle, c'est toute mon enfance.
C'est ça.
Par exemple. Par exemple.
C'est mon enfance.
Quand la synagogue de la Victoire, elle est rue Notre-Dame de Nazareth.
Exactement.
Quoi?
Elle est belle.
Elle est belle. Oui, elle ressemble à une belle cathédrale.
Vous savez qu'elle aurait dû être sur la rue Lafayette, normalement.
L'entrée, oui, c'est trop grand.
La grande arrêt. Oui, mais je crois que, je ne sais pas, c'est sous Napoléon, il voulait que ce soit dans une petite rue.
Oui, c'est ça.
Pas axée sur une grande rue, comme les Juifs vont accéder.
C'est ça.
Et rue Notre-Dame 2.
C'est ce que je t'ai dit.
Donc
ça, c'est la deuxième chose, la séparation avec la dimension du divin. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose qu'on dit de faire, Zemot Pashut. Va faire le ménage chez toi. Parce que ça, c'est des grandes choses. Le calendrier, la relation que j'ai avec la spiritualité de mon voisin Goy. Mais à la maison, mon ami, à la maison, t'as plein de choses. Donc tu vas enlever kol aseor ve'achametz shebetoch habayit. Combien à la maison t'as de trucs qui font de toi un occidental beaucoup plus qu'un juif? Hein, posons-nous la question.
Beaucoup de maisons juives, c'est la mode apparemment. Ils ont chez eux un Bouddha. Ils trouvent que c'est beau. C'est un symbole
énorme. Mais viens, on se pose la question, toi et moi et moi et moi et toi. Dans ma maison, dans ta maison, combien d'objets on a qui sont des références pures et claires à une autre identité? On peut se poser cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les enlever, parce que, comme on a dit, il y a des choses qui sont bien à amener. Mais est-ce que ta maison, elle est majoritairement une maison qui transpire l'Occident ou qui transpire le judaïsme? C'est là. C'est une vraie question. Quand tu vas voir la bibliothèque chez toi, d'abord, est-ce qu'il y a une bibliothèque?
Quand c'est une bibliothèque, c'est chez des juifs, en général.
Non, t'exagères.
Tu sais ce que je dis.
Mais cette bibliothèque...
Excuse-moi, je te dis un mot encore, excuse-moi. Quand, durant 40 ans de carrière médicale, de gérontologie, c'est-à-dire des personnes âgées installées, quoi, j'avais peut-être 10% de juifs et 90% de chrétiens, quoi, de goy. Mm-hmm. Quand j'allais chez les juifs, ils avaient tous une bibliothèque avec plein de livres, juifs ou pas juifs, une bibliothèque. Quand j'allais chez les goy, évidemment, c'était toute la journée, il y avait 4/5 de personnes qui n'avaient aucun livre, qui achetaient Nous deux, ou Voici, ou...
Des magazines.
Zéro, pas un livre, sauf chez 10%. Et c'est ça le peuple juif.
Bon, alors très bien, t'as des livres. Mais qu'est-ce qu'il y a comme
livres? Qu'est-ce qu'il y a? Des livres de quoi?
Et voilà. C'est... Oui. Est-ce que c'est une bibliothèque des œuvres littéraires de la France du 18e? Ou est-ce que c'est des livres qui rappellent ton identité?
C'est une question. Le fait d'avoir fait son aguerre, on passe pas un coup de gomme sur ce qu'on a vécu.
Bien entendu.
Ça reste. Alors maintenant, quelle importance on donne à ça? Ça dépend de la situation de tous les jours, ça dépend de... Mais... Les choses se font pas à draga. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a vécu 40 ans en France d'un coup de revenir en Israël et de tout...
Non, je ne demande pas.
Il n'y a qu'un seul cas dans la Gemara où il y a marqué un truc comme ça. C'est un rave qui est venu ici.
Rabbi Zeira. Il a jeûné 100 jeûnes, 100 jours de jeûne pour oublier tout son Talmud qu'il a appris là-bas.
Mais c'est le seul.
Non, mais personne ne t'a demandé d'oublier. Personne t'a demandé d'oublier. On t'a juste demandé de ne pas t'oublier.
Non, je veux dire, au cours de ta vie, tu as rassemblé certains trucs chez toi. Et ils sont chez toi. Et Bon, même si ça ne correspond pas à tout, mais tu peux pas, c'est difficile de t'en détacher. Par exemple, moi j'ai un tableau chez moi à la maison qui représente la campagne italienne. Avec une source un truc très joli, très beau. Ça fait
les personnes t'ont demandé de
50 ans, 60 ans. Ouais, bon, on peut penser que, étant donné que c'est RS, comment c'est
non, mais non, regarde, ouais, si dans ta maison, t'as un tableau de la campagne italienne, parce que c'est un souvenir, parce que c'est truc, mais que t'as aussi 12 autres tableaux qui mettent en scène des scènes du peuple juif, ou alors que t'as à côté de la campagne italienne, t'as une menorah, et là-bas t'as une mezouza, et là-bas t'as un machin. Alors ça, là, ta campagne italienne, elle rajoute de la beauté dans ta maison. Mais si toute ta maison, c'est la campagne italienne, et que t'as une petite, un petit sidour quelque part derrière d'autres livres, il y a un problème, tu comprends ? Le problème, il n'est pas d'avoir un tableau de la campagne italienne. C'est pas ça, d'ailleurs. Le problème, c'est que toute ta maison, ça soit que la campagne italienne.
Non, c'est
ça. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème.
C'est difficile de commander.
Comment
notre problème, c'est que mes livres, c'est français et hébreu français. C'est ça qui m'embête.
Là, ma femme, elle a un grand problème. On a un grand débat, là. On a
hébreu français.
Ouais. C'est-à-dire, chez Yé, c'est pas grave. L'athlète. Mais là, par exemple, on a un problème. Quand on a fait des travaux à la maison, on a fait des travaux il y a 3-4 ans. On a refait tout l'intérieur, machin, ok. Et donc, on a prévu une grande place qui sera la bibliothèque. Et donc, on a fait c'est une bibliothèque en plâtre, comme ça, qui est intégrée dans le mur, machin. Mais j'ai plus de place. Ça y est, ça déborde de partout maintenant. Et donc, je les mets où, mes bouquins, maintenant? J'achète des nouveaux livres. Je les mets où? Et je commence à les empiler sur des machins. Et ma femme me dit, ah, c'est pas joli, c'est pas joli. J'ai dit, mais malasote! Où je les mets? Elle me dit, non, mais t'inquiète, il y en a certainement que tu n'utilises plus. Alors t'en enlèves d'autres et tu mets cela. J'ai dit non, ma putain, qu'est-ce qu'on fait? Maillotech Hachouv, l'esthétique générale ou
la connaissance, les connaissances.
Si on peut faire les deux, c'est mieux.
C'est sûr.
Non, mais Kitsour, je sais pas ce qu'on aura beaucoup étudié, mais.
On a beaucoup étudié.
On a beaucoup étudié. Oh, Hachem.